Chapitre 8. 23 heures après avoir arrêté Laura, les deux inspecteurs lui annoncèrent qu'elle pouvait rentrer chez elle. « Il y a de grandes chances que nous devions vous poser d'autres questions, Laura », prévint Cranduff. « Alors ce n'est pas le moment de partir. »«
Pas de souci, j'annule tout de suite mon séjour à Disneyland », railla Laura.
« Excellente idée », dit l'inspecteur en lui adressant son triste sourire annonciateur de mauvaises nouvelles. Il était 22 heures passées lorsqu'elle sortit enfin du poste de police pour être accueillie par une bruine glaciale. Dans Gray's Inn Road, elle sauta dans un bus et se laissa tomber sur le seul siège libre de l'étage inférieur. La femme à côté d'elle, assez forte et bien habillée, fronça le nez et se colla à la vitre pour minimiser le contact avec cette nouvelle arrivante trempée et malodorante. Laura pencha la tête en arrière et ferma les yeux. La femme à côté fit un petit bruit de bouche désapprobateur. Laura l'ignora. La femme poussa alors un soupir. Laura sentit sa mâchoire se serrer et ses poings se contracter. « Compte jusqu'à 10 », lui disait toujours son père. Alors elle essaya. « 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. » Elle n'arrivait pas à aller plus loin, elle ne savait plus compter, et pour ne rien arranger, la femme soupira de nouveau en remuant son gros cul sur son siège. Laura voulut hurler. « C'est pas ma faute, c'est pas ma faute, c'est pas ma faute, bordel !» Elle se leva. « Je sais !» aboya-t-elle en fusillant sa voisine du regard. « Je pue, je suis au courant. J'ai passé les dernières 24 heures en garde à vue, avant ça je faisais mes courses, et encore avant ça j'ai bossé pendant 8 heures, donc ça fait 2 jours que j'ai pas pris de douche, c'est pas ma faute. Mais vous voulez que je vous dise ? Dans une demi-heure je sentirai la rose, et vous, vous serez toujours une grosse vache !»
Laura tourna les talons et descendit du bus 3 arrêts avant le sien. Sur le trajet jusque chez elle, elle n'arrêtait pas de revoir l'expression blessée de l'autre passagère, son visage cramoisi, et elle dut se mordre l'intérieur de la joue pour ne pas fondre en larmes. L'ascenseur étant toujours en panne, elle gravit les 7 étages en s'efforçant de ne pas pleurer. Elle était fatiguée, elle avait mal à la jambe, sa coupure au poignet la lançait, mais surtout, elle mourait de faim. On lui avait bien proposé à manger au poste de police, mais à cause du stress, elle n'avait pas réussi à avaler la moindre bouchée. Résultat, elle avait la tête qui tournait. Elle inséra comme elle put son double de clé dans la serrure, déverrouilla la porte et entra. La cuisine était saccagée, tiroirs et placards ouverts, poêles et casseroles éparpillées un peu partout. L'œuvre des policiers qui avaient effectué la perquisition. Au milieu du carnage, trônaient les plats désormais périmés qu'elle avait achetés au supermarché avec le peu d'argent qui lui restait. Dégoûtée, elle détourna le regard, éteignit les lumières et se mit au lit sans prendre de douche ni se laver les dents. Les larmes roulant sur ses joues, elle essaya de trouver du réconfort en se caressant la nuque, comme le faisait son père pour la bercer lorsqu'elle n'arrivait pas à s'endormir à cause de ses problèmes ou de la douleur. Car les problèmes et la douleur, elle savait ce que c'était. Sa petite enfance, passée dans un quartier crasseux du sud de Londres, avait été sans histoire. D'ailleurs, les seuls souvenirs qu'elle en avait étaient une image mentale dans les tons sépia, d'une petite maison mitoyenne dans une rue étroite, ainsi qu'une sensation, celle de l'herbe sèche sous ses pieds nus en été. La couleur ne venait qu'à partir de ses 9 ans, lorsqu'elle avait déménagé avec ses parents dans un village du Sussex. C'était là que les problèmes avaient commencé. Non pas que le village en fût responsable, Laura l'aimait bien d'ailleurs. Il était très joli, avec ses petites maisons en pierre et son petit parc où les jeunes jouaient au cricket et où les gens venaient promener leur labradoodle en compagnie de leurs beaux enfants blonds. Janine, la mère de Laura, n'était pas du même avis. Elle trouvait cet endroit débilitant, un mot que Laura ne connaissait pas mais qui était visiblement péjoratif. Laura aimait aussi beaucoup son école. Il n'y avait que 15 élèves dans sa classe et ses professeurs disaient d'elle que c'était une excellente lectrice. Enfin, elle aimait se promener seule à vélo, surtout l'été, où elle s'arrêtait au bord des routes de campagne pour s'empiffrer de murs. Le père de Laura, Philippe, avait troqué son rêve de devenir scénographe de théâtre contre un boulot stable dans la ville voisine où il travaillait comme comptable. Comptable. Rien que le mot avait le don de faire lever les yeux au ciel à Janine. Elle soupirait, tirait longuement sur sa cigarette et grommelait « Tu parles d'un métier excitant. » « La vie n'est pas toujours excitante, Janine », rétorquait son père. Parfois, il faut savoir se comporter en adulte. Parce que les adultes sont condamnés à mourir d'ennui, Philippe ? Les parents de Laura n'avaient pas toujours été aussi malheureux. Elle se souvenait d'une époque où sa mère ne passait pas tous les repas les bras croisés sur sa poitrine, à répondre par monosyllabes aux questions de son mari, sans toucher à son assiette. Elle se souvenait d'une époque où sa mère riait en permanence, où elle chantait même. « On devrait retourner habiter à Londres », suggérait parfois Laura. Et sa mère esquissait un sourire et lui caressait les cheveux, le regard perdu dans le vague. Mais son père répondait systématiquement, d'un ton un peu trop enjoué. « Ce n'est pas possible, mon poussin. J'ai un travail ici, maintenant. Et on a une jolie maison, non ?» Le soir, Laura les entendait se disputer. « Tu te rends compte de ce que tu es devenu, Philippe ?» crachait sa mère d'une voix affreuse. « Un vulgaire conseiller bancaire, un larbin qui compte l'argent des autres. C'est tout ce que tu attends de la vie ?» Ou bien, « Alors c'est ça, maintenant, notre vie ? Monsieur et madame tout le monde à la campagne ? Tu m'enterres dans ce trou paumé, mais je n'ai jamais signé pour ça, moi, tu sais ?» À quoi son père répliquait « Toi, toi, toujours toi. Je te rappelle qu'on est une famille, Jeannine. Arrête ton mélodrame. » Fillette optimiste, Laura jouait à celle qui ne se rendait compte de rien et restait convaincue que si elle travaillait bien à l'école et que son comportement était exemplaire, sa mère finirait par oublier ce qui la rendait malheureuse. Laura faisait tout pour la satisfaire. Elle lui montrait ses dessins et lui rapportait les compliments qu'elle recevait de la part de ses professeurs. À la maison, elle ne s'éloignait jamais de sa mère. Elle l'aidait à faire le ménage, s'asseyait à côté d'elle quand elle lisait, la suivait de pièce en pièce lorsque celle-ci tournait comme un lion en cage. Elle tentait de décrypter les expressions sur son visage, essayait de deviner à quoi elle pensait. Pourquoi soupirait-elle ainsi? Pourquoi soufflait-elle avec agacement sur la mèche qui lui retombait devant les yeux? Laura cherchait aussi des moyens d'obtenir un sourire. Parfois, elle y arrivait, mais parfois sa mère se mettait à crier « Mais bon Dieu, Laura, tu ne peux pas me laisser tranquille 2 secondes ?» À l'automne, Jeannine commença à prendre des cours de dessin. Et à Noël, Laura remarqua que quelque chose avait changé. Paradoxalement, la bise glaciale venue de l'Est qui avait repoussé les nuages pour laisser place à un sublime ciel bleu semblait avoir aussi provoqué un réchauffement des relations familiales. C'était comme si une trêve avait été conclue. Du jour au lendemain, sans que Laura comprenne pourquoi, les disputes cessèrent. Son père avait l'air moins abattu, sa mère riait en faisant la vaisselle. Le soir, au lieu de s'installer dans le fauteuil pour lire, elle se collait tout contre Laura sur le canapé pour regarder la télévision. Il y eut quelques sorties à Londres, dont une au magasin de jouets Hamleys et une autre au zoo. La nouvelle année commença sur une bouffée d'optimisme, avec un câlin et un grand sourire de la part de sa mère lorsque Laura partit pour l'école le jour de la rentrée et une promesse de faire de la luge le week-end suivant s'il neigeait comme prévu. Il neigea, mais il n'y eut pas de luge. Le vendredi, il tomba 6 cm de neige en moins d'une heure, assez pour que l'entraînement de foot soit annulé. Peu après 15 h, Laura descendit à vélo la rue qui menait à sa maison, en suivant au milieu de la chaussée les sillons noirs laissés par les voitures. Ce n'était que le milieu de l'après-midi, mais il faisait déjà sombre, et elle ne vit ni n'entendit la voiture qui déboula de nulle part. Laura se retrouva projetée à 3 mètres du sol, et retomba sur le dos avec une telle violence que sa mère, qui se tenait devant la maison, entendit le bruit de son casque se fracassant sur le bitume. Le chauffard ne s'arrêta pas, laissant Laura inanimée derrière lui, le crâne fracturé, la jambe et la hanche brisées en plusieurs endroits. C'est à cet instant que commencèrent les problèmes et la douleur. 6 opérations, des mois d'hospitalisation, des heures et des heures de souffrance, d'innombrables séances épuisantes de kiné, d'orthophonie et de psychothérapie. Jusqu'à la guérison complète. Enfin, façon de parler. Car si son état physique était globalement satisfaisant, Laura restait mal en point. Elle était plus lente, plus irritable, moins mignonne. Petit à petit, une amertume nouvelle commença à s'épanouir en elle, tandis qu'elle constatait, impuissante, que ses perspectives d'avenir autrefois illimitées s'étaient considérablement réduites. Le lendemain de sa sortie de garde à vue, Laura fourra tous les plats décongelés dans le micro-ondes et les fit tourner quelques minutes. Puis elle engloutit autant de nourriture que son estomac pouvait en contenir, jeta le reste à la poubelle et s'habilla pour aller au travail. « Qu'est-ce que tu fais là ?» demanda Maya, la patronne de Laura à la laverie, lorsqu'elle sortit de l'arrière-boutique et vit la jeune femme qui pendait son manteau derrière le comptoir. « Ben, je viens travailler. On est mercredi. »« Effectivement. Et hier, on était mardi, et tu étais aussi censé travailler, sauf que tu n'es pas venue. » Laura voulut protester. « Ça ne m'intéresse pas, » dit Maya en levant une main pour la faire taire. « Je me doute que tu as une excuse, comme d'habitude, et je n'ai pas envie de l'entendre. Je suis désolée, Laura, mais j'en ai jusque-là. »«
Maya, je suis désolée. »
« Est-ce que tu savais qu'hier, c'était les 5 ans de mon petit-fils et que sa mère m'avait proposé de les accompagner aux eaux ?»« Eh bien, je n'ai pas pu y aller, puisqu'il a fallu que je vienne ici te remplacer. »« Quand je pense que tu n'as même pas eu la décence de me prévenir. »«
J'ai pas pu, Maya. Je suis vraiment, vraiment désolée de t'avoir planté comme ça. »«
Tu ne pouvais pas passer un coup de fil ? Tu étais en garde à vue ou quoi ?» Laura baissa la tête.
« C'est la meilleure. Tu t'es encore fait arrêter ?»
s'exclama Maya en levant les bras de dépit.
« Je suis désolée, Laura, mais ce n'est plus possible. J'en ai soupé de tes histoires, et tu ne pourras pas dire que je te prends au dépourvu. Combien de fois je t'ai prévenue ? Tu es toujours en retard, tu n'es pas fiable, tu es désagréable avec les clients. » «
Non, Maya, c'est pas... »
« Je sais ce que tu vas dire, ce n'est pas ta faute, ce n'est jamais ta faute. Et peut-être que c'est vrai, peut-être qu'effectivement ce n'est pas ta faute. Mais ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas la mienne non plus. »
Sur le trottoir devant la laverie, Laura régurgita une bouillie de pizza et de bâtonnets de poisson pané.
« J'ai pas fait exprès !»
cria-t-elle à l'attention de Maya, qui l'observait bouche bée de l'autre côté de la vitrine. Et c'était vrai, elle ne pouvait pas non plus vomir sur commande. Simplement, elle avait inséré sa carte bleue dans le distributeur situé à côté de la laverie et l'appareil lui avait confirmé qu'il lui restait 7 livres et 57 pence sur son compte en banque, ce qui, avec les 4 livres dans son porte-monnaie, constituait l'intégralité de sa fortune. Et comme si la situation n'était pas déjà assez compliquée, voilà qu'elle se faisait virer. Or, un licenciement pouvait entraîner d'autres sanctions. On pouvait lui retirer ses allocations logement pendant plusieurs mois, par exemple. Elle connaissait des gens à qui c'était arrivé. Elle allait se retrouver à la rue. Enfin, si elle ne finissait pas en prison pour meurtre. C'était cette prise de conscience, véritable coup de poing dans l'estomac, qui l'avait fait vomir. Elle s'essuya la bouche et s'éloigna en se mordant la lèvre pour tâcher de contenir la panique grandissante qui enflait dans son estomac fraîchement purgé. Sitôt rentrée chez elle, elle appela sa mère car, même si celle-ci ne se montrait jamais à la hauteur, Laura ne pouvait s'empêcher de l'aimer et d'espérer que peut-être, cette fois, les choses se passeraient différemment.
« Maman, tu m'entends, maman ?»
Il y avait de la friture sur la ligne et du bruit en arrière-plan.
« Laura, comment vas-tu, ma chérie ?»«
Pas terrible, maman. Est-ce que tu pourrais passer me voir ?»
Une longue pause.
« Maman ?»«
Oui, tu disais ?»«
Est-ce que tu pourrais venir me voir, s'il te plaît ?»«
On est à l'étranger, donc ça risque d'être un peu compliqué. »
s'esclaffa sa mère. Et son rire rauque acheva de doucher les espoirs de Laura.
« On rentre dans quelques semaines. On se voit à ce moment-là »«
Quelques semaines ? Je... Vous êtes où ?»«
À Séville, tu sais, en Espagne. »«
Oui, je sais où se trouve Séville, merci. »
grommela Laura avant de déglutir.
« Écoute, maman, je crois que je me suis attiré des ennuis et... »«
Oh, Laura, encore ?»
Laura se mordit à la lèvre.
« Oui, maman, encore. Désolée. D'ailleurs... « Dis-moi, je me demandais, est-ce que tu pourrais me prêter un peu d'argent, juste pour me dépanner ? J'ai vraiment eu un coup de pas de chance, je te jure que j'y suis pour rien. »«
Laura !»
Quelques secondes de grésillement.
« J'ai pas entendu, maman. »«
Je disais que ça ne tombe pas très bien, c'est un petit peu juste pour nous en ce moment. »«
À Séville ?»«
Oui, à Séville. Richard participe à une foire d'art contemporain, mais il a dû d'abord payer son emplacement et... »«
Et il a toujours rien vendu ?»«
Pas encore. »
Je vois.
Il y eut une longue pause, et entre deux parasites, Laura entendit sa mère soupirer. Ce fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase, l'instant où elle comprit qu'une fois encore, sa mère l'abandonnait à son sort.
Laura, tu pleures ? Oh, Laura, je t'en prie, ne fais pas ça. Tu sais bien que je ne supporte pas qu'on essaie de me manipuler.
J'essaie pas de te manipuler.
Oh, que t'as, Laura.
Je te le jure.
Écoute-moi,
dit sa mère d'un ton sec, très professionnel.
Pleure un bon coup et rappelle-moi après, d'accord? Je vais voir avec Richard pour ces histoires d'argent. En attendant, prends soin de toi, Laura.
Laura continua à pleurer un petit moment, puis, une fois vidée de toutes ses émotions, elle appela son père, qui ne décrocha pas. Elle décida de lui laisser un message.
« Coucou papa, c'est Laura. Alors, hier, on m'a arrêtée pour meurtre, mais on m'a laissée partir sans m'inculper. Ensuite, je me suis fait virer pour avoir raté un jour de boulot parce que j'étais en garde à vue. Toute la bouffe que j'avais achetée est périmée, et aussi, j'ai plus un rond. Est-ce que tu pourrais me rappeler? Bonne journée, hein? Allez, bisous !»